Normand va prendre les présences. Monsieur François Racine.
Présent.
Jean-Guy Lajeunesse.
Présent.
Yves Legault.
Présent.
Jean-Guy Blot.
Présent.
François Robillard.
Présent.
Frédéric Lantier.
Présent.
Alors, avant de débuter la séance, alors, bonsoir à tous. Comme vous le constatez, nous devons à nouveau nous réunir à huis clos en raison des restrictions imposées par le palier 4, alerte maximale zone rouge du gouvernement du Québec. Tel qu'annoncé par le premier ministre du Québec lundi, il faut continuer à respecter les consignes pour protéger les plus vulnérables, ainsi que le réseau de la santé. J'en profite pour remercier les Martelacoises et les Martelacois qui travaillent dans les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC, les cliniques et les laboratoires. Vos efforts nous touchent et nous vous en sommes très reconnaissants. J'aimerais aborder brièvement la question de la coloration de l'eau potable en vous informant d'une nouvelle encourageante. En effet, le rinçage unidirectionnel sera terminé ce soir, sinon demain, sur l'ensemble du territoire, ce qui contribuera à réduire grandement les épisodes d'eau colorée. De plus, nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la Direction de la santé publique du CIS des Laurentides et nous sommes sur le point de renouveler notre partenariat avec la chaire industrielle en eau potable de Polytechnique Montréal. Je tiens à vous rappeler que les rapports d'analyse de l'eau potable sont toujours disponibles en ligne sur notre site Web. La Ville a récemment été placée devant un fait accompli fort déplorable, la coupe illégale d'arbres par un promoteur. Pourtant, cette entreprise avait bel et bien été informée de la réglementation à respecter pour toute coupe d'arbres dans le cadre de ses projets. C'est pourquoi la Ville lui a transmis un avis d'infraction suite à des discussions avec la Direction générale de la Ville. Le promoteur a distribué à ses frais 360 arbres aux propriétaires des résidences qu'elle a construites en 2019 et en 2020 sur notre territoire. En terminant, j'invite les parents et les enfants au plaisir de la collecte des friandises samedi prochain lors de l'Halloween, et ce, en respectant les règles du gouvernement quant à la distanciation sociale. Aussi, je vous invite à participer à notre concours de décoration de citrouille. Il y a 3 prix à gagner dans 4 catégories d'âge, soit les 3 à 5 ans, les 6 à 11 ans, les 12 à 17 ans et les 18 ans inclus. Le concours se termine vendredi à midi et on peut obtenir tous les détails sur notre site Web. Alors, bonne chance aux participants et je vous invite samedi soir à redoubler de vigilance dans vos déplacements. Merci de votre attention. Alors, nous allons passer à la séance ordinaire du conseil municipal tenue exceptionnellement à huis clos le 27 octobre à 19h30 à l'hôtel de ville situé au 3000 chemin d'Oka pour ce qui est du personnel du greffe et de la direction générale. Alors, nous allons procéder au point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Qu'il propose? Qui l'appuie? Alors, nous allons passer au point numéro 2, procès-verbal, adoption.
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2020, tel que soumis.
Qui propose?
Jean-Guy Blot le propose.
Jean-Guy Blot le propose et qui l'appuie?
Oui. Yves Legault l'appuie.
Point numéro 3, liste de comptes à payer, adoption.
Il est résolu d'adopter les listes de comptes à payer en date du 27 octobre 2020, à savoir le registre des chèques émis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 82 417,24, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 386 412,79, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 2 150 945,51. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Alors,
nous allons passer à l'avis de motion. 4.1, règlement 539-1 relatif à la plomberie, la construction des entrées de service ainsi que leur raccordement aux conduites principales.
Et le goût de la motion à l'effet qu'une prochaine séance, conseil de présenter, le règlement 539-1 relatif à la plomberie, la construction des entrées de service, ainsi que le raccordement au conduit principal et dépose en ce sens le projet. Depuis, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement jusqu'à chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, il s'agit ici pour le règlement 539-1, c'est pour que le permis de construction se doit d'avoir été émis avant de pouvoir faire le raccordement aux conduites principales. Parce qu'il y avait des promoteurs ou des constructeurs, là, des autocontracteurs qui faisaient, qui ne venaient pas chercher leur permis, mais qui faisaient faire le raccordement. Alors, il n'y aura plus de raccordement qui vont être faits aux conduites principales si le permis n'a pas été émis. Alors, nous allons passer à 5.1, second projet de règlement, P2-1200-1, modifiant le règlement de lotissement 1200 afin de modifier les dispositions relatives aux corridors écologiques.
Considérant qu'un règlement de lotissement est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 septembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même date, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1200-1, modifiant le règlement de lotissement 1200 afin de modifier les dispositions relatives aux corridors écologiques. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Qu'il propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lanté, je l'appuie.
Alors, nous nous conformons à la réglementation de la MRC quant aux endroits où il y a une digue pour que les gens qui ont été inondés puissent... Alors, on va passer au point 5.2, règlement 1400-59, modifiant le règlement 1400 afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur les territoires de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 25 août 2020, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire et à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 22 septembre 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-59, modifiant le règlement 1400, afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705, telle que modifiée avec l'ajout d'une précision à la note 2 dans la grille des spécifications. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Qui le propose?
François Lapin le propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lanté, je l'appuie.
Alors, il s'agit du secteur de la rue André. C'est une modification à la grille parce qu'il s'agit de jumeler contigu. Et à l'époque, quand ils ont fait la modification au règlement, ils ont omis de modifier la grille pour permettre de faire du jumelé. Les terrains de milieu étaient beaucoup trop larges. Alors, 6.1, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 3179 chemin d'Oka. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure afin de permettre une réduction de la marge avant à 3,97 mètres au lieu de 6 mètres pour un bâtiment principal.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure afin de permettre une réduction de la marge avant à 3,97 mètres au lieu de 6 mètres pour le bâtiment principal, selon la grille de spécification de la zone H710. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-10-87, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis de construction au 3179 chemin d'Oka, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur, considérant que la demande de dérogation mineure pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est résolu de refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3179 chemin d'Oka pour la réduction de la marge avant.
Qui propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lanté, je l'appuie.
6.2, demande de dérogation mineure quant à la propriété située sur le lot 2209806. Alors, il s'agit ici pour l'implantation de deux bâtiments de type multifamilial de 12 logements sur deux lots distincts.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres.
J'aimerais dire
le
quoi sur cette dérogation
dans l'eau. OK. Est-ce qu'on va laisser Mme Lagraffière la lire et puis.
OK. Parfait, parce que j'aimerais faire un ajout à la résolution. Sur le terrain, il y a des arbres nature là, qui sont côté. Côté est du terrain, c'est des conifères qui sont là, qui sont sur la ligne de l'eau, là, pratiquement sur la ligne de l'eau, là, du côté de la 35e avenue. Comme on a décidé que les arbres mourraient dans un délai de 24 mois, mais que comme spécifié au règlement de zonage, de les remplacer. J'aimerais ça aussi qu'on spécifie de conserver ces arbres-là qui sont sur la ligne de l'eau, la ligne est du lot.
OK. Bon, on va juste rajouter de conserver et si les arbres meurent dans un délai, ils devront être remplacés.
Parce qu'il y a des arbres que vous pouvez couper parce qu'il y a l'ancienne rue Claude. Et là, dans le fond, les arbres sont à droite de cette ancienne rue-là va tomber comme dans un des deux bâtiments.
Quand
les autres qui sont sur la limite est, ils n'ont pas à les tuer parce que là, certainement qu'il n'y a rien. J'aimerais bien ça qu'on spécifie ces arbres-là aussi dans la résolution.
Bon,
ça va faire un vœu aussi avec les résidents.
Alors, 6.2. Alors, on va modifier le libellé d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le lot 2209806 pour l'aménagement des terrains avec la condition suivante. Conserver les arbres sur la ligne est, ligne limitrophe est, et si les arbres meurent dans un délai de 24 mois, ceux-ci devront être remplacés tel que spécifié à l'article 8.1.3 du règlement de zonage 1400. C'est beau?
Parfait.
Alors, nous allons passer... OK, on va passer au point 6.2, demande de dérogation mineure quant à la propriété sise quant au lot 2209806.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise l'aménagement... Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise l'aménagement extérieur de deux bâtiments de type multifamilial de 12 logements sur deux lots distincts. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-10-88, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis de construction pour le lot 2209 806, considérant qu'une dérogation mineure a déjà été présentée et acceptée par les membres du conseil par la résolution 2020-09-219, mais que des modifications ont été apportées au plan suite aux recommandations du service de sécurité incendie, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sur le lot 2209 806 pour l'aménagement des terrains avec les conditions suivantes. Si les arbres meurent dans un délai de 24 mois, ceux-ci devront être remplacés tel que spécifié à l'article 8.1.3 du règlement de zonage 1400 et conserver les arbres sur la ligne limitrophe Est.
Qui le propose?
Frédéric Lanté, je le propose.
Qui l'appuie?
Bonjour,
nous allons passer au point 6.3, demande de PIA quant à la propriété située au 129 43e avenue.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal de 12 pieds par 12 pieds en cour arrière. Le revêtement extérieur est blanc, même revêtement que le bâtiment existant, et le revêtement de toiture est en bardeaux d'asphalte, même revêtement que le bâtiment existant. L'agrandissement est d'un étage reposant sur la galerie en béton existante. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-10-89, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 129 43e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 129 43e avenue pour l'agrandissement du bâtiment principal.
Qui le propose?
Jean-Yves Lou, je le propose.
Qui l'appuie?
François Rossine l'appuie.
Nous allons passer au point 6.4, demande de PIA quant à la propriété située au 297 rue de la Sève.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA afin de permettre la construction d'un garage détaché. Le revêtement extérieur est composé de vinyle blanc à l'arrière et sur les côtés et d'aluminium blanc à l'avant, même revêtement que le bâtiment existant. Le revêtement de toiture est également le même que le revêtement existant, soit du bardeau d'asphalte. Considérant que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-10-90, considérant que la demande de PIA vise à permettre la construction d'un garage détaché au 297 rue de la Sève, considérant que la demande de PIA a déjà été présentée et acceptée par les membres du conseil par la résolution 2020-09-221, mais que des modifications ont été apportées au plan, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 297 rue de la Sève pour la construction d'un garage détaché.
Il propose.
Frédéric Lanté, je le propose.
Non.
Qui l'appuie? Alors, on va passer au point 6.5, demande de PIA quant à la propriété située au 2939 boulevard des Promenades.
Considérant qu'en date du 6 octobre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA afin de permettre l'installation d'une enseigne à place sur le bâtiment de 10 pouces 1.8 par 5 pouces par 2 et d'une enseigne sur poteau de 5.5/7/8 par 1.11/11/16 pour le nouveau restaurant Sauté. L'enseigne à plat est d'une épaisseur de 5 pieds
un corps, sur fond d'un, avec graphique d'un vinyle blanc imprimé. Le logo est en acrylique translucide blanc, système d'illumination par Dell. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-10-91, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'installation de deux enseignes au 2939 boulevard des Promenades, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété cise au 2939 Boulevard des Promenades pour l'installation de deux enseignes.
Qu'il propose?
Bonjour, Racine, de
propos. Qui l'appuie?
Frédéric Lantier, je l'appuie.
Si je peux juste me permettre deux commentaires. Le premier commentaire, est-ce que c'est possible de mettre ça en système métrique, les prochaines résolutions? Parce qu'on est comme en pouce puis en pied là, depuis quelques années déjà.
Oui, c'est beau, on va leur demander.
Puis deuxièmement, si tout le monde, on peut fermer nos micros, peut-être ça aiderait aussi à la séance. Là. Fait que de laisser seulement Marie-Josée qui parle à micro ouvert, le reste, si on fermait tous nos micros, là, ça pourrait peut-être aider pour ça.
7.1, surveillance de chantier, autorisation de déplacement de coûts pour CIMA+.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a octroyé par sa résolution 2019-07-142 le contrat pour la préparation des devis et la surveillance de chantier pour les travaux d'imperméabilisation, de prolongement et de réfection de la digue, considérant que la durée des travaux a été prolongée entraînant une surveillance additionnelle de la part de l'entreprise CIMA+, considérant que ces coûts sont nécessaires pour assurer la complétion des travaux et qu'ils découlent du contrat octroyé, considérant que conformément au règlement 677 concernant la gestion contractuelle, tout dépassement de coûts supérieur à 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise CIMA+, d'un montant de 143 320 $ plus toute taxe applicable pour la surveillance et les suivis additionnels nécessaires vu la prolongation des travaux.
Qu'il propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
7.2, adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes.
Considérant l'adoption du règlement ADM 2020-02 portant sur l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes par sa résolution 2020-196 de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes tenue le 24 septembre 2020. En conséquence, il est résolu que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prend acte de la résolution 2020-196, que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est en accord avec l'adhésion de la municipalité régionale de comté, la MRC de Deux-Montagnes, à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes aux conditions prévues à la dite entente.
Qui le propose?
Jean-Yves Lou, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Yves.
Qui l'appuie? Monsieur Lajeunesse? OK, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut l'appuyer, s'il vous plaît? Non?
Yves Legault l'appuie.
Alors, 7.3, réseau de transport métropolitain RTM, renouvellement de mandat au sein du conseil d'administration.
Considérant que le réseau de transport métropolitain est composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par des municipalités locales de la Couronne-Nord, considérant que les mandats de M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, et de M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, viennent à échéance le 8 novembre prochain. Considérant qu'il est prévu que le mandat des administrateurs du conseil est d'au plus 4 ans et que ces mandats peuvent être renouvelés 2 fois à ce titre. Considérant que messieurs Jean Bouchard et Normand Grenier désirent renouveler leur mandat pour une 2e fois. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soutient les candidatures de monsieur Bouchard et de monsieur Grenier. En conséquence, il est résolu de mandater la mairesse, Mme Sonia Paulus, à déposer à la secrétaire générale la présente résolution afin de soutenir les candidatures de M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, et de M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, à titre de membre du conseil d'administration du réseau métropolitain, d'autoriser la mairesse, Mme Sonia Paulus, à voter lors de la rencontre advenant une modification de la votation et d'autres cycles de votation.
Qu'il propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Jean-Yves Blou, je l'appuie.
7.4, régie d'assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes, demande de dissolution.
Considérant que le règlement d'emprunt de la régie sera complètement payé au 31 décembre 2021, considérant qu'en vertu de l'entente, se trouvant en annexe du règlement 494, toute partie peut aviser les autres municipalités membres d'y mettre fin, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite mettre fin à cette entente, en conséquence, il est résolu d'informer les municipalités membres de la Régie d'assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes de son intention de mettre fin à la Régie au 1er janvier 2022, de présenter une demande de dissolution au MAMACH, que copie de la présente résolution soit acheminée aux municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet, ainsi qu'au MAMACH.
Qu'il propose?
Il y aurait un petit changement à faire. Le règlement d'emprunt de régie dû au PADEM serait complété et payé au 31 décembre. C'est pas l'ensemble.
OK, on va rajouter un considérant en indiquant ça.
Parce que la régie... on ne pouvait pas la dissoudre tant qu'on devait une somme au gouvernement.
OK.
OK, puis on peut savoir pourquoi qu'on veut dissoudre cette régie-là?
La régie à trois, la ville de Sainte-Marthe en assume 12 et ce 72%-là, tous les travaux sont faits.
OK, M. Legault. Monsieur Legault, je vais prendre la parole. Là. OK, 72% des coûts sont assumés à cette régie-là par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 3% environ par Pointe-Calumet, 25% par Saint-Joseph-du-Lac. OK? Et actuellement, c'est les travaux qui sont faits à l'érablière et c'est toujours la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui les fait. Alors, pourquoi payer une régie et avoir des frais de tenue de livre et des frais pour, alors qu'on a juste à facturer les villes voisines quant aux frais au lieu d'avoir une entité distincte.
C'est quoi les frais annuels de la régie?
C'est les états financiers. On paye... Monsieur Legault, c'est combien de pourcents qu'on donne à la ville de Saint-Joseph-du-Lac pour administrer la régie?
Pour administrer la régie, c'est 13 000. C'est 13 000 de comptable.
13 000 $ monsieur Robillard. Et en plus, on a les états financiers qu'on paye et... alors que c'est de toute façon la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui fait les travaux qui sont à faire.
OK, mais c'est parce qu'il y a une résolution il y a quelques années que c'est, dans le fond, c'est nous qui s'occupait de la régie, puis là, ben, on a transféré ça à Saint-Joseph il y a une couple d'années. Pourquoi on n'a pas gardé le...
C'est pas nous, c'était la ville de Deux-Montagnes. C'était pas la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pas du tout. Non.
Ça a toujours été Saint-Joseph qui ont été...
Deux-Montagnes et après Saint-Joseph-du-Lac. Ouais.
Mais là, on parle de la régie à trois ou à quatre?
Là, on parle de la régie à trois, mais la régie à trois et à quatre ont toujours été administrées par Deux-Montagnes et par la suite, c'est Saint-Joseph-du-Lac qui a pris l'administration.
OK, mais si on parle de cette régie-là, la 7.4, on parle de la régie à trois villes.
Oui.
Oui. Avant, c'était, il y a quelques années, c'était Sainte-Marthe qui s'occupait de la paperasse de cette régie-là.
Non, jamais.
Jamais.
OK, ça a toujours été Saint-Joseph.
Non, Deux-Montagnes et par la suite Saint-Joseph.
Deux-Montagnes n'a jamais fait partie de cette régie-là.
Honnêtement...
Le secrétaire de la régie est...
était Deux Montagnes. C'était le même, c'était monsieur Dumoulin qui s'en occupait. C'était monsieur, pas Dumoulin, comment est-ce qu'il s'appelait, là? Il a pris sa retraite.
OK, fait que Deux Montagnes s'occupait de la régie.
La personne qui faisait l'administration seulement.
OK.
C'était monsieur Berthelet, excusez. C'est ça. Monsieur Berthelet qui s'en occupait, mais c'était. L'administration se faisait quand même à Deux Montagnes. Mais je parle juste là de l'administration. Alors, qui le propose?
Je le propose, Yves Legault.
Qui l'appuie? Monsieur Lajeunesse. Oh. Le micro est ouvert, mais il n'y a pas de son, Monsieur Lajeunesse.
On s'entend pas.
On le voit là, que vous l'appuyez, mais on ne l'entend pas. OK. Alors, 7.5, vente pour non-paiement de taxes 2020, report.
Considérant que la vente pour non-paiement de taxes devait avoir lieu le 22 octobre 2020, considérant que la CMM est passée en zone rouge le 1er octobre dernier, considérant que dans ces circonstances, la recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est de reporter toute vente aux enchères publiques. Considérant que la Ville a publié un avis de report dans le journal local ainsi qu'un communiqué sur son site Internet. En conséquence, il est résolu de reporter la vente pour non-paiement de taxes pour les immeubles figurant sur la liste déposée le 22 septembre 2020, laquelle était prévue le 22 octobre 2020 à une date ultérieure, que les autorisations données au directeur général par la résolution 2020-09-228 et à la greffière par la résolution 2020-09-229 soit reportée à la date à laquelle aura lieu la vente pour non-paiement de taxes pour les immeubles identifiés sur la liste susmentionnée.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
7.6, demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, autorisation de signature.
Considérant que les articles 573.3.1 et suivants de la loi sur les cités et villes et 938.1 du Code municipal, donnant notamment au ministre le pouvoir d'autoriser une municipalité à octroyer un contrat sans demander de soumission, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est membre de Tricentris et à ce titre, lui confie le tri des matières recyclables provenant de son territoire, considérant que l'actuel contrat entre la municipalité et Tricentris vient à échéance le 14 avril 2022, considérant les pourvoirs en contrôle judiciaire et demande de jugement déclaratoire visant à déclarer nuls les contrats entre Tricentris et la Ville de Laval et la MRC Vaudreuil-Soulanges, considérant le jugement de première instance déclarant que ces contrats ont été conclus illégalement mais autorisant leur maintien en vigueur jusqu'à leur terme, considérant que la procédure d'appel de ce jugement est en cours mais viendra vraisemblablement à un terme après l'expiration du contrat actuel, considérant le projet de loi numéro 65 déposé le 24 septembre 2020 par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, considérant que selon l'échéancier prévu par le ministre, la modernisation de la collecte sélective entrerait en vigueur en décembre 2021, considérant les conditions de marché actuelles des centres de tri et les délais requis pour procéder aux appels d'offres pour les tri en matière pour le tri des matières recyclables et pour la collecte et le transport de celles-ci vers le centre de tri ainsi désigné, considérant le projet d'entente présenté par Tricentris couvrant la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024 d'une valeur approximative de 455 390 $, considérant que dans les conditions actuelles, il est dans l'intérêt de la Ville de conclure un contrat sans demande de soumission avec Tricentris. En conséquence, il est résolu que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac transmette à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de dispense pour la conclusion d'un contrat de tri et de conditionnement des matières recyclables avec Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024. D'autoriser M. Carl Scanlan, directeur général, à signer la demande de dispense ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution.
Qu'il propose? Bon, M. Lajeunesse, on ne vous entend pas. Je vois que c'est vous qui le proposez. Là. Qui l'appuie?
Jean-Guibla de l'appui.
7.7, acquisition de terrain, digue 2019, autorisation de signature.
Considérant les événements du 27 avril 2019, considérant le décret 403-2019 concernant l'établissement du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents survenant avant le 31 mars 2021, considérant qu'en vertu du dit programme d'aide financière, le propriétaire d'une résidence principale impossible à réparer ou à reconstruire peut céder le terrain sur lequel elle se trouve à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, considérant que certaines propriétés inondées sont déclarées perte totale et qu'elles ont été démolies, considérant que des propriétaires des propriétés impossibles à réparer ou à reconstruire ont manifesté à la ville le désir de lui céder le terrain sur lequel ses propriétés se trouvent, et ce pour la somme nominale de 1 $. En conséquence, il est résolu de signer l'acte notarié de cession du terrain ci-après décrit pour la somme nominale de 1 $. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 1,464,110 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé au 16 16e avenue, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville les actes de cession et tout autre document requis au fin de la présente résolution.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lantier, je l'appuie.
7.8, acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, autorisation de signature.
Considérant que la demande d'Hydro-Québec et de Bell Canada a l'effet d'obtenir une servitude sur une partie des lots 1,461,219 et 1,465,680. En conséquence, il est résolu d'autoriser la conclusion d'un acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell sur une partie des lots 1,461,219 et 1,465,680 pour les lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunication, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
Qui le propose?
François Racine le propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lantier.
Frédéric Lantier. Bon. Alors, il s'agit tout simplement de donner une servitude parce que ça va. Hydro-Québec et Bell vont passer sur un terrain propriété de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais les fils vont aller en direction de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, 7.9, renouvellement de contrat d'assurance générale, 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Considérant que le contrat d'assurance générale avec le groupe Ultima Inc. viendra à échéance le 31 octobre 2020, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite renouveler son contrat d'assurance générale avec le groupe Ultima Inc., en conséquence, il est résolu d'accepter la proposition de renouvellement de groupe Ultima Inc. afin de renouveler notre contrat d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour les assurances générales de la ville pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, le tout pour un montant de 145 730 $ plus toute taxe applicable.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
8.1, syndicat de la fonction publique, section 1962, correction de lettre d'entente.
Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 2019-11-288 à la séance du 26 novembre 2019, considérant que la lettre d'entente portait le numéro 2019-02 et qu'elle aurait dû porter le numéro 2019-03, considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur, en conséquence, il est résolu de prendre acte que la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le syndicat de la fonction publique, section 1962, concernant les surveillants, doit porter le numéro 2019-03.
Qui le propose?
Frédéric Lantier, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
9.1, rapport financier et rapport de l'auditeur, adoption.
Il est résolu d'accepter le rapport financier et le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au 31 décembre 2019, tel que préparé par la firme comptable Deloitte, que le rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier de la Ville et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2019 sera déposé à la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
9.2, état financier semestriel 2020, dépôt.
Considérant qu'en...
Excusez-moi, Mme Paulus, vous pouvez faire un petit sommaire du rapport financier?
Monsieur Simon Beauvais est ici, alors il va vous faire le petit sommaire. À la période de questions, dès qu'on va avoir terminé l'Assemblée. C'est bon?
Parfait.
Considérant qu'en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les civils, le trésorier doit déposer deux états comparatifs lors de la dernière séance ordinaire du Conseil, tenue au moins 4 semaines avant l'adoption du budget de l'exercice financier suivant. Considérant que la dernière séance ordinaire du Conseil a lieu moins de quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier doit être adopté, en conséquence, il est résolu d'accepter le dépôt des deux états comparatifs, le premier comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant et ceux de l'exercice précédent, et le second comparant les revenus et les dépenses de l'exercice courant et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice, le tout conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes.
Qu'il propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
13.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2021.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, il est résolu que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et à celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2021, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités des produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ses documents à la date fixée. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.
Qui le propose?
Jean-Guy Lajeunesse le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Blot, je l'appuie.
13.2, imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en Remblai, SP 2019-017, dépassement de coûts, autorisation dans le cadre de Duro King.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP 2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Duro King Construction par sa résolution 2019-08-177,
considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal, en conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Duro King Construction d'un montant de 318 414 $ plus toute taxe applicable pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue en remblai vu la prolongation des travaux.
Qu'il propose.
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
13.3, réparation des pompes sanitaires et pluviales, renouvellement de contrat.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a octroyé le contrat pour la réparation des pompes sanitaires et pluviales à l'entrepreneur 3 étoiles électriques le 14 septembre 2016 par sa résolution 2016-09-238. Considérant que ce contrat peut être renouvelé pour une autre période d'un an, considérant la recommandation de M. Carl Scanlan, directeur général, de renouveler ce contrat, le tout conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est résolu de renouveler le contrat pour la réparation des pompes sanitaires et pluviales pour l'année 2021 à l'entrepreneur 3 étoiles électriques selon le taux horaire de 70 $ plus toute taxe applicable.
Qu'il propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Jeunesse l'appuie.
Alors, nous allons passer au point numéro 15, les dépôts.
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois de septembre 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois de septembre 2020. Dépôt des statistiques de la bibliothèque pour le mois de septembre 2020. Et dépôt du rapport du directeur général concernant la signature des contrats pour le mois de septembre 2020.
Alors, avant de passer à la période de questions, on va passer à M. Simon Beauvais, qui va faire un petit résumé de...
Donc, bonsoir à tous. Donc, le rapport financier 2019, on a un total consolidé d'un déficit de 1 941 493. De ce montant-là, si on repart de l'excédent accumulé de l'exercice 2018, on avait un excédent de 65 788 042 qui fait foi des bonnes années de gouvernance de la ville. Donc, on avait des excédents qui se sont accumulés. Donc, notre excédent accumulé baisse en 2019 à 63 846 749. Puis, les grosses lignes. Si on regarde l'année 2019, le déficit est surtout attribuable aux mesures d'urgence, dans le sens que on en a eu pour 8 millions de dépenses en sécurité publique. Puis de ce montant-là, on reçoit 75% du ministère de la Sécurité publique, la subvention. Donc on est déficitaire de 2 millions à cet effet-là. Puis c'est vraiment de là qu'on retrouve notre déficit. Hein. S'il n'y aurait pas eu ça, on aurait eu un autre surplus en 2019. Hein. Donc sommairement, c'est ça. Puis sinon, François, si jamais tu veux venir regarder avec moi, je pourrais repasser au peigne fin la présentation avec toi sur les questions supplémentaires. Là.
Oui, j'aimerais bien ça. Est-ce que les auditeurs ont rencontré l'ensemble du conseil?
Non, en fait, on a eu une rencontre avec les membres du comité finance seulement la semaine dernière. Puis l'auditrice était par distance à cause de la COVID.
OK. Puis pourquoi que l'ensemble du conseil n'a pas eu de rencontre avec les auditeurs alors que le rapport est remis aux membres du conseil de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac?
Mais en fait, c'est pas tenu par la loi de faire une présentation des auditeurs au conseil. Donc, généralement, eux, ce qu'ils font, c'est une présentation aux responsables des finances. Puis, s'il y a des questions par la suite, ben, ma porte est ouverte.
Pas tenu, mais les rencontres avec l'ensemble du conseil, je pense que dans les 14 dernières années, les auditeurs sont venus rencontrer les membres du conseil. Surtout pour une année où est-ce qu'on a un déficit de 2 millions, je pense que ça aurait été important que les membres du conseil soient là et puissent poser des questions aux auditeurs.
Ben, notre porte est toujours ouverte pour avoir tout type de questions à cet effet-là. On est en mesure de les répondre.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Simon Beauvais?
Oui, dans le fond, là, pour les revenus, dans le fond, le 6 millions, là, parce que c'est à peu près 6 millions là, qu'on a de revenus dans les...
Les inondations, oui.
Oui, c'est ça, dans le... je vais trouver dans mon document. Dans les surplus de transfert.
Oui.
Ça provient tout de la même place, c'est-à-dire au ministère de la Sécurité publique.
En fait, on a un 6 millions... qui est de la sécurité publique, qui correspond à 75% de nos dépenses de 8 millions qu'on a engendrées. Hein.
OK. Les 8 millions, pour avoir une petite ventilation sommaire, on a dépensé ça dans le fond pour le service incendie, pour la Croix-Rouge.
Oui, ben en fait, il y a eu énormément de dépenses, que ce soit la réparation, que ce soit les roches, on a eu les digues temporaires.
Ça inclut aussi les digues temporaires là, en roche qu'on a faites pour...
Oui, tout à fait.
Sur la 29e, sur la 21e,
23.
C'est la 23e,
je pense. Ouais, je pense que c'est 23 aussi. Il y a eu les locations de pompes aussi.
OK.
C'est
23e. Okay. Il y a dans le texte là, que le rapport d'auditeur, là, on nous dit que... la conclusion là, qui nous amène à... je vais juste retrouver là, la phrase. Là. Nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies sur les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou si ces informations ne sont pas adéquates d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenant jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou des situations futures pourraient par ailleurs amener la ville à cesser ses activités.
Ben, ça, c'est un texte standard qu'ils mettent.
C'est un texte standard qu'ils mettent.
Ouais, ouais. Eux autres, dans le fond, ils standardisent tous leurs états financiers. Fait que si on regarde avec nos états financiers de l'année passée, qui étaient avec d'autres auditeurs, il y a certaines modifications. Hein.
OK. Fait que ça, c'est pas lié. Parce qu'on a un déficit de 2 millions, puis on a aussi des relances d'emprunt importants qui vont se rajouter à ceux qui ont été audités en 2019, là, parce que dans l'audit, on parle de 43 millions, mais le règlement d'emprunt sur la digue est rendu à 50 millions. 49, c'est presque 50, c'est bien ça?
Oui.
On a le règlement d'emprunt pour le feu de circulation qui se rajoute aussi.
Oui. Faut garder en tête qu'il y a des services de dette aussi qui viennent à échéance. Donc, c'est sûr que c'est un gros emprunt, 50 millions, mais réparti sur la durée qu'on va avoir, j'ai estimé que ça allait être à peu près 60 $ par compte de taxes.
Et là, comme là, cette année, là, quel règlement d'emprunt qu'on a fait cette année, ils vont se rajouter à ça. Parce qu'on a la lumière, le feu de circulation.
Le feu de circulation n'est pas encore fait.
Il n'est pas encore fait.
Non.
Okay. Fait qu'on a le 5-6 millions supplémentaires pour la digue.
C'est un montant de 10 millions parce que le 50 en tant que tel, on va avoir un 40 millions qui va être subventionné du gouvernement fédéral et provincial. Donc, la ville assumerait seulement 10 millions sur le 50.
Oui, non, ça, je comprends, mais ça reste que ça reste dans nos livres pendant la durée du prêt.
Oui, parce qu'en fait, on n'a pas eu encore de réponse à savoir comment ils vont nous payer. Généralement, le provincial nous paye par année, le fédéral nous paye d'un coup. Mais étant donné que la somme est plus élevée qu'à l'habitude, on ne sait pas si... ils vont nous payer de la même manière que le provincial le faisait dans le passé.
OK.
Puis juste on revenir, François, aussi, tu parlais du 43 millions des poursuites. Mais ça, c'est juste la somme de toutes les poursuites qu'il y avait. Tu sais, c'est tributaire de la décision des tribunaux, puis...
Oui, parce que ça coupe un peu, là. Fait que là, aussi, on a fait un emprunt aussi pour une sous forme de marge de crédit de 5 millions.
Ouais.
Comment qu'on va payer le 2 millions de déficit? Est-ce que ça va être cette marge de crédit-là?
Non, en fait, le 5 millions qu'on avait pris, c'était pour... un peu en cas d'urgence pour terminer l'année, si besoin il y avait. Présentement, et heureusement, je pense pas qu'on va en avoir de besoin. Puis, c'est pas avec ça qu'on paye le déficit. Hein. Le déficit, étant donné qu'on avait un excédent accumulé de 65 millions, on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt pour ça. Comme il a été fait dans le passé, je pense en 2002-2003, il y avait un emprunt qui était fait pour la consolidation de déficit. Hein. Mais comme l'excédent accumulé... Et de, ils font finir avec 63 millions. On n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt.
Okay. Bon, ben pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Quand est-ce qu'il a été déposé ce audit-là?
C'est le rapport, mais on le dépose après la séance. Donc demain, on va le déposer.
Excusez, j'ai mal posé ma question. À quel moment vous avez reçu le rapport des auditeurs?
Le rapport, je pense que c'est la semaine dernière. Je pense que c'est jeudi ou vendredi que ça s'est fait.
La date est indiquée dessus, François.
Ben nous, on a mis le 27. 27 à la page 2. Je pense que les auditeurs ont mis leur date aussi un peu plus loin, à la fin du rapport des auditeurs.
Okay.
Eux ont mis le 20.
Le 20 octobre?
Ouais.
Okay.
Qui était jeudi de... mardi.
Mardi?
Ouais.
Mais la rencontre avec les membres du conseil et le visio, là, c'était jeudi.
Fait que la rencontre qu'on a eue avec l'auditrice, c'était le jeudi. Hein. Puis suite à ça, les auditeurs ont déposé le rapport final le 22.
OK, j'ai absolument rien compris de ce que vous avez dit, là, parce que ça coupait beaucoup. Est-ce possible de répéter le... que Mme Paulus a dit? Puis...
Oui, mais en fait, Mme Paulus disait qu'on a eu une rencontre avec les auditrices, avec la firme d'Audi jeudi, hein, afin de nous présenter sommairement leur travail. Puis, c'est la journée même qu'ils ont déposé le rapport final, donc le 22.
Okay. C'est bon.
Oui. Oui, François, j'ai cherché dans mon agenda. Effectivement, c'est jeudi à 9h30. Okay. Alors, nous allons passer à la période de questions.
S'il y a d'autres monde qui ont des questions.
Non, on va commencer par les questions. Parce que...
Ah oui, le public.
Oui. OK. Mais avant tout, je vais vous faire la lecture des questions qui nous ont été transmises par courriel par les citoyens. Nous avons résumé les questions afin d'y aller avec l'essentiel de la demande. Nous vous rappelons que pour que nous puissions prendre vos questions en considération, vous devez vous identifier et nous indiquer votre adresse de résidence conformément à la réglementation en vigueur. Alors, la première question est de Mme Julie Pelletier, 228 32e Avenue.
Mme Pelletier voudrait savoir quand elle recevra les résultats des analyses d'eau après traitement, telles que demandées le 29 juin dernier par l'accès à l'information.
Alors, nous comprenons que vous vous êtes adressé à la commission d'accès à l'information concernant cette demande. Alors, nous allons laisser le soin à la commission de l'accès de se prononcer sur la question.
Madame Pelletier demande pourquoi nous n'avons pas encore engagé de spécialistes pour travailler sur le dossier de l'eau malgré l'affichage du poste à deux reprises.
Alors, nous avons affiché le poste seulement une fois, le 1er octobre dernier, et le processus est en cours.
Madame Pelletier demande si M. Barbeau a été mandaté officiellement par la Ville sur le dossier de l'eau et si oui, sur quoi va-t-il travailler?
Non, M. Barbeau n'a pas encore été mandaté. On attendait son offre de service que nous avons reçue en avant-midi. Nous sommes en discussion avec lui concernant les mandats exacts sur lesquels il devra travailler.
Madame Pelletier demande ce que la Ville propose aux écoles qui se retrouvent avec de l'eau brune au robinet en période de rinçage et à d'autres moments dans l'année.
Nous avons avisé les écoles que nous étions en période de rinçage. Toutefois, on s'organise pour ne pas faire de rinçage près des écoles durant les heures de classe. À titre d'exemple, le rinçage sur le boulevard des Promenades près de l'école Liberté Jeunesse a été effectué en fin de journée.
Madame Pelletier demande si la Ville a déterminé sur quel terrain la prochaine école sera construite et aimerait connaître les résultats de la rencontre avec le centre de services.
Nous avons effectivement eu une rencontre téléphonique avec les représentants du centre de services et nous sommes toujours en négociation en ce qui concerne le terrain à céder pour une école à venir au sud du chemin d'Oka.
Question de Mme Renée Lortie et M. Mario Wells du 2 Première Avenue. Question 1, ils voudraient savoir quand les travaux sur la digue se poursuivront et demandent ce qui se passe avec le gazon, la deuxième tentative ayant échoué.
Suite à des vérifications sur le terrain, la deuxième tentative a été concluante. Nous allons vous demander de communiquer avec nous s'il y a un endroit en particulier qui serait problématique pour vous.
Il demande ce qui arrive avec les dommages sur les terrains.
S'il y a des dommages, ceux-ci seront réparés par l'entrepreneur.
Question de Mme Catherine Touga du 11 43e Avenue. Mme Touga demande pourquoi la Ville n'a pas commencé à fournir de l'eau embouteillée à ses résidents et quand le ferons-nous?
Tant que l'eau potable que nous distribuons rencontre les normes gouvernementales, nous n'avons pas à fournir de l'eau embouteillée à la population. Si jamais nous avions à distribuer de l'eau embouteillée, la commande nous viendra du gouvernement.
Prochaine question de Mme Véronica Badea du 284 27e Avenue. Madame Badea demande s'il serait possible de permettre l'accès aux chiens dans une partie du parc municipal et demande la création d'un parc à chiens dans le quartier nord.
Nous avons reçu plusieurs plaintes de citoyens demeurant autour du parc municipal concernant les chiens et la police a même dû intervenir dans ce dossier. Les endroits où vous avez accès avec un chien sont le parc à chiens sur la rue Sauvé, le parc de la Frayère et le boisé qui est derrière l'école des Lucioles. Nous avons effectivement un projet d'implanter un parc à chiens prochainement au nord du chemin d'Oka.
Question de Mme Josiane Aspect du 2097 rue du Blizzard. Mme Aspect demande si la Ville songe à organiser une soirée d'information avec les principaux acteurs et spécialistes travaillant sur le dossier de l'eau.
Ce n'est pas prévu pour le moment. Advenant des changements qui nous obligeraient à faire des choix une fois que la chaire de l'eau aura travaillé sur le dossier de l'eau potable, nous pourrions alors organiser une soirée d'information.
Madame Aspect demande si la Ville songe à diffuser les séances municipales avec Zoom ou autre application.
Alors, nous allons le prévoir au budget pour 2021.
Question de M. Olivier L. Duguay au 3012 Boulevard des Pins. M. Duguay demande comment la Ville peut faire la surveillance en temps réel de la qualité de l'eau en considérant que nous avons des problèmes même lorsque nous ne sommes pas en période de rinçage.
Une surveillance en temps réel est déjà effectuée à l'usine d'eau potable par Aquatec.
Monsieur Duguay demande quel est le statut du projet de piscine municipale.
Le projet est en cours de réalisation et nous sommes présentement à compléter l'étape des plans et devis. Aussi, nous sommes dans l'attente d'une réponse à une nouvelle demande de subvention déposée suite à l'augmentation des coûts du projet.
Question de Mme Michèle Fortin du 37 19e Avenue. Mme Fortin avait demandé en août dernier si des arbres seraient plantés le long du boulevard des Promenades du côté de la piste cyclable et je lui avais répondu que c'était prévu pour l'automne. Elle voudrait savoir où nous en sommes.
Alors, dû aux travaux d'Hydro-Québec, nous avons reporté la plantation qui était prévue pour le printemps afin que celle-ci ne soit pas endommagée cet hiver par le déneigement et l'abrasif.
Question de M. Marc-André Daou du 210 rue James. Le boisé derrière la rue André a été coupé sans permis par un promoteur. Est-il possible pour la ville de demander le reboisement avec de nouveaux arbres matures?
Alors, le promoteur devra présenter son projet à la ville avant de pouvoir construire et nous nous assurerons qu'un projet de plantation nous soit soumis pour ce secteur.
Monsieur Daou mentionne que ce même promoteur aurait reçu à plusieurs reprises des amendes concernant plusieurs manquements à la réglementation. Monsieur Daou aimerait connaître le total des amendes payées par ce promoteur dans la dernière année.
Alors, nous n'avons pas l'information du total des amendes qui ont été payées par ce promoteur. Il faudra que vous vous adressiez à la cour municipale qui est à Deux-Montagnes. Malheureusement, nous ne le savons pas parce qu'une fois qu'une amende est contestée et qu'elle est judiciarisée, les sommes sont à la cour de Deux-Montagnes.
Concernant le règlement qui oblige toute nouvelle construction de planter deux arbres, est-ce la responsabilité du promoteur ou de l'acheteur? Et comment ferez-vous pour faire respecter ce règlement tant pour les acheteurs actuels que ceux qui ont déjà construit?
Alors, c'est la responsabilité du promoteur et les inspecteurs du service de l'urbanisme vont s'occuper du suivi dans ce dossier, comme ils l'ont fait depuis les dernières semaines, entre autres lors de la coupe des arbres sur la rue André.
Question de Mme Guylaine Thibodeau du 3254 Chemin d'Oka. Mme Thibodeau demande si la Ville a reçu les résultats de l'étude environnementale du boisé faite par la Ville et si oui, quand seront-ils disponibles pour les citoyens?
Alors, nous avons reçu un rapport préliminaire. On devrait rencontrer la personne qui a fait l'étude et lorsque nous recevrons le rapport final, celui-ci sera déposé sur le site Internet de la Ville.
Question de Mme Sylvie Clermont du 2978 rue des Chênes. Mme Clermont voudrait connaître la réglementation municipale et provinciale qui s'applique lors de la construction le long d'un cours d'eau, soit le ruisseau Perrier.
Alors, dans le règlement de zonage au chapitre 8, section 8.2, vous pouvez trouver toutes les dispositions relatives aux rives et au littoral. Nous vous en ferons parvenir une copie par courriel puisqu'il serait trop long d'en faire la lecture.
Madame Clermont demande si le promoteur GBD a obtenu des permis pour couper à blanc les nombreux lots le long du ruisseau Perrier. Si la réponse est non, est-ce que la Ville a agi afin de faire appliquer sa réglementation envers le promoteur?
Alors, la réponse est non. Il n'a pas obtenu de permis. Un avis d'infraction a été émis aussitôt que nous avons été mis au courant de la situation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, moi j'ai d'autres questions. Concernant la dernière question de Mme Clermont, on parle de l'eau, le long, est-ce qu'on parle des lots, est-ce que la question était sur les lots qui ont été coupés sur la rue André ou c'est plus haut, là,
Le long du ruisseau Perrier à la hauteur de la rue André,
non? OK. C'est ce qui a été fait. La question était sur les lots que les arbres ont été coupés là, la semaine dernière.
La fin de semaine de 3 jours, oui.
OK.
Il me semble que c'est, ouais, c'est la fin de semaine de 3 jours.
Non, bien sûr. Fait que là, juste pour résumer, là, l'urbanisme a envoyé une amende à GBD, c'est bien ça?
Au promoteur, oui.
Oui. OK. Est-ce que Est-ce que le conseil de ville va prendre une action concrète en faisant une résolution ou entreprendre d'autres démarches pour...
Mais là, on lui a émis son...
On peut juste laisser ça entre les mains de l'urbanisme. Puis...
Son avis d'infraction lui a été émis. Il y a eu une discussion avec la direction générale ici. Et c'est à ce moment-là que le promoteur a décidé qu'il allait se conformer au règlement et qu'il allait livrer 2 arbres par terrain de propriété qui ont été vendus au cours des de 2019-2020. Je sais qu'il a commencé à faire sa livraison parce que si vous allez sur son site Internet, vous voyez qu'il y a des photos qui ont été prises.
OK. Ça, c'est acceptable comme...
Non, pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme j'ai répondu, je crois que c'est à M. Daou. Ce qu'on va faire, c'est quand il va présenter son projet, il va y avoir des exigences quant à la plantation d'arbres qui vont lui demander beaucoup plus d'efforts qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
OK. Est-ce que la réglementation le permet de demander plus d'efforts, hein?
Oui, parce qu'on peut très bien demander de faire sur l'emprise de rue, de mettre des arbres. On peut très bien lui demander, quand il va présenter son projet, de mettre en arrière l'eau des arbres, parce que c'est le ruisseau Perrier qu'il y a dans ce coin-là. Alors, on peut très bien décider de protéger le ruisseau Perrier.
OK. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va être plus exigeant quand que les projets vont passer,
là. Bien, c'est dans les prochaines semaines, là.
OK. Au niveau des amendes, est-ce que vous allez revoir la réglementation au niveau des amendes ou on laisse ça tel quel?
On va regarder pour être un petit peu plus dissuasif.
OK. Parce que on se rappelle que c'est pas la première fois qu'il y a des coupes à blanc, puis c'est pas nécessairement aussi le même promoteur, là. Il y a eu d'autres promoteurs aussi qui ont fait ça cette année, les années auparavant, puis on n'a jamais changé la réglementation, là. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait bientôt, là, pour mettre beaucoup plus de poids, pour que ça soit beaucoup plus dissuasif, comme vous dites, là, avant qu'il y ait des arbres.
Oui.
Parce que c'est bien beau qu'on replante des arbres, là, mais c'est loin d'être des arbres matures.
Mm-hmm.
On va continuer avec les arbres. Vous avez parlé des arbres sur le bord des promenades.
Oui.
On a l'intention de replanter des arbres le long du bord des promenades.
Oui.
OK. Comme j'ai déjà fait la suggestion les années auparavant, ça serait peut-être intéressant de les mettre pas entre la piste cyclable puis le boulevard des promenades, mais peut-être du côté de l'autre côté de la piste cyclable, là, qui est entre la piste cyclable et puis les résidences. Parce que on va se rappeler que à peu près le 7/8 de ces arbres-là sont morts au bout de quelques années.
Mais c'est pour ça qu'on ne les plante pas cet automne, là, à cause de l'abrasif qu'on va mettre quand on va déneiger.
Oui, mais il va arriver un autre hiver, puis l'année d'après, il va arriver un autre hiver. Les arbres qu'on avait plantés au bout de quelques années, là, ils sont à peu près tous morts. Fait que tant qu'à planter des arbres, où est-ce qu'on a... Oui,
mais c'est des arbres qui ont été... Les arbres qui meurent
encore.
Oui, mais les arbres... Mais les arbres qui ont été plantés sur le boulevard des promenades ont été malades. Ils étaient atteints, là. Je crois que c'est des frênes, là, mais je vous dis toute réserve, mais je crois que c'est des frênes.
Ben, si on veut leur donner des chances, peut-être juste les passer du côté de... Comme ça, au moins, ben, là, ils n'auront pas de l'abrasif directement sur eux. Ça va leur donner des chances, puis on risque moins de voir mourir au fil des années.
OK.
En plus, mais question d'émondage aussi, là, dans plusieurs années, ben les branches, au lieu qu'ils tombent sur le boulevard des promenades, ben ils vont tomber sur la piste cyclable. Fait comme ça, ben on sera pas obligé de les couper à moitié quand ils vont avoir 20, 25, 30 ans d'âge, là, ces arbres-là. Voilà ma suggestion pour les arbres du boulevard des promenades. La piscine. Est-ce que les coûts à date sont toujours les mêmes?
Oui, on n'a pas eu d'autres informations là, que les dernières qu'on avait. Pas eu d'autres informations quant au coût.
Puis à long terme, c'est viable avec les règlements d'emprunt de.
Oui.
Okay. Avez-vous l'assurance qu'on va avoir une subvention plus élevée?
On se croise les doigts.
Okay. Au niveau des incendies, on avait donné un contrat à M. Maillé pour faire un rapport sur le service des incendies. Est-ce que le rapport a été complété?
Non. On doit rencontrer M. Maillé et le service d'incendie.
Est-ce que c'est le son, est-ce qu'il est coupé ou c'était la fin de la réponse?
C'était la fin de la réponse. On doit rencontrer M. Maillé avec le service d'incendie, avec M. Norbert Vandert. Là.
OK. Il n'est pas supposé d'émettre un rapport avant les rencontres? Ça veut dire que le rapport va aller après la rencontre?
Non, on doit avoir une rencontre avec M. Maillé et aller une seconde rencontre avec le service d'incendie.
Suite à ça, il va émettre un rapport.
Mais là, il va nous faire le rapport verbal pour commencer. Lors d'une rencontre, je sais qu'à cause de la COVID, là, on a des petits problèmes de rencontre, mais la personne qui siège sur les incendies, c'est M. Legault. Alors, je sais que M. Maillé m'a contacté, m'a demandé si c'était possible d'organiser une rencontre. Alors, on devrait avoir une rencontre prochainement avec M. Maillé, M. Legault, Carl Scanlan, le DG, et moi-même.
OK. Mais est-ce qu'il va y avoir un rapport écrit par M. Maillé sur ses recommandations suite à ces rencontres-là?
Ses recommandations, il va nous les faire verbalement, puis si on juge nécessaire de les avoir par écrit, on lui demandera par écrit. Mais de toute façon, M. Robillard, même si vous riez, on va le rencontrer, on va regarder ce qu'il va nous dire.
C'est parce que...
On lui a demandé de travailler sur le dossier, de regarder ce que la Ville de Deux-Montagnes ou le service d'incendie suggère et de regarder par rapport à la réglementation en vigueur, voir quelles étaient vraiment la nécessité pour que notre territoire soit bien couvert.
Pas ça, je suis entièrement d'accord avec ça, là. Il n'y a pas de problème, mais on donne un contrat à une compagnie pour émettre des recommandations, puis il fait des recommandations verbales et non écrites.
Bien, pour commencer, il va nous les faire verbales, puis si on considère qu'on a besoin d'un écrit, il nous le fera par écrit. Vous connaissez M. Maillé, M. Robillard, alors vous savez qu'il est professionnel. Il va sûrement nous faire quelque chose qui est très professionnel. Non.
Arrêtez là. Je mets pas en doute son professionnalisme. Aucunement. Là. C'est juste que le problème, là, c'est que, je tiens à vous le rappeler, j'assiste à aucune rencontre plénière avec vous. Okay? Les seuls documents, le seul moment que je vous parle, c'est aux assemblées publiques. Le contrat qu'on donne à M. Maillé, là, c'est pour faire en sorte d'évaluer ce que Deux-Montagnes veut nous amener au niveau des incendies. On s'entend que Deux-Montagnes a reporté le projet au prochain budget.
Oui.
Le prochain budget, là, il est dans 3 semaines? 1 mois?
Oui.
Ben, il faudrait peut-être savoir quel pied danser avant d'allouer des sommes aux incendies.
Oui. Alors, on va rencontrer M. Maillé et on va écouter ce qu'il a à nous dire.
OK, puis l'ensemble du conseil, le reste du conseil, vous allez après ça nous faire un résumé de ce que vous avez compris de la rencontre?
Bien, on va vous le dire. C'est quoi qui s'est dit? Puis on va vous donner l'information.
C'est ça, on continue à vous faire confiance aveuglément, Mme Paulus, c'est ça?
Non, M. Robillard, là, non. Est-ce que vous me faisiez confiance aveuglément pendant les 12 ans que vous étiez avec moi?
Ouais.
Non, bon, M. Robillard, vous m'avez même dit...
C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté votre équipe aussi, hein, parce que...
C'est ce que vous dites, M. Robillard, c'est parce que vous étiez tout le temps avec des time-out, pour que tout le monde autour de la salle, dans la salle des caucus, se taise, parce que vous aviez la science infuse, et vous disiez aux gens quoi dire et quoi penser. Personne n'avait le droit de repenser autour de la table. Quand vous faisiez vos time-out, on était comme dans une chambre de hockey, tout le monde devait se taire. Vous aviez la science infuse.
Non, je pense pas.
Mais c'est ce bon, que vous croyez, à tout le monde.
Là, mais c'est parce que le problème, Mme Paulus, vous me décrivez comme ça, mais vous répondez pas à la question. C'est ça qui arrive?
Ben, je vous dis qu'on va rencontrer M. Maillet.
On va continuer, là.
Ben oui, c'est beau. Quelle prochaine question, M. Robillard?
Prochaine question. Au niveau des districts électoraux, j'ai été très, très, très étonné que la commission de la représentation électorale ont fait deux consultations au niveau du projet que vous avez amené au conseil, que vous avez approuvé le règlement sur les 8 districts. Et vous n'étiez même pas présente à l'une de ces deux assemblées-là. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous étiez absente, Mme Paulus?
Alors, M. Robillard, nous, en tant que conseil, on prend les recommandations du personnel qui ont été se faire former. Et vous le savez, ça a toujours été comme ça. Alors, on a pris les recommandations. Et une fois que les gens se sont... Bon, il y a des gens qui ont été contre ce projet-là. Alors, la commission est venue faire son travail et je ne vois pas pourquoi que je me serais immiscée dans leur travail. Moi, on les laisse, puis ils prendront leur décision.
Vous êtes la mairesse, vous êtes là. La commission de la représentation électorale était pour entendre la position de ceux qui s'y opposaient, puis la position de la ville aussi qui défendait le projet de règlement, pas le projet de règlement, le règlement en tant que tel.
Est-ce que la ville était présente, M. Robillard? Monsieur Robillard, est-ce que la ville était présente? Oui.
Oui, mais c'est les employés. Vous avez envoyé les employés répondre à des questions. Il y a des questions politiques. Il n'y en a pas de bon sens.
Monsieur Robillard, qui a fait le règlement? Est-ce que c'est nous? Non.
Non. Non. Et oui, je suis bien d'accord avec ce que les employés ont fait le règlement. Mais c'est qui a choisi le modèle à 8 au lieu d'à 6? C'est le conseil.
Ouais.
Et c'est qui a adopté la réglementation? Ben, c'est le conseil.
Ouais.
C'est vous, Mme Paulus, et pas l'ensemble de votre équipe, la majorité de votre équipe, parce que Mme Lancier a voté contre la résolution.
Oui. Alors, et c'est quoi votre question?
Ça n'a pas de bon sens, Mme Paulus. J'ai assisté à la rencontre à Rimouski, parce que eux aussi allaient devant la commission de la représentation électorale. Il y avait deux conseillers, le maire était là. C'est parce que même si vous ne parlez pas, vous êtes là pour écouter l'ensemble des citoyens.
Mais M. Robillard, je peux vous dire que je vous...
M. Robillard,
je peux vous dire que j'étais non loin et je vous écoutais passer vos petits commentaires et poser vos questions. J'étais peut-être pas sur l'écran, je n'ai pas pris la parole, mais j'entendais très bien ce que vous avez demandé et ce que vous avez dit.
OK.
Alors...
Ça n'a aucun sens d'envoyer les employés en avant, d'aller vous cacher en arrière en écoutant.
Ben là, M. Robillard, OK, c'est beau. Bon, M. Robillard...
C'est à vous d'aller défendre le projet, parce que c'est vous qui l'avez proposé, qui l'avez accepté.
C'est beau. Monsieur Robillard, on est à une période de questions. Alors, quelle est votre prochaine question? Non, Monsieur Robillard, là, c'est vraiment là, la risée du siècle là, quand c'est votre période de questions. Hein?
La risée du siècle.
Oui. Monsieur Robillard, si vous veniez ici, au lieu de venir ici le mardi là, à 16h15 là, pour venir poser vos questions, si vous veniez juste le lundi, on pourrait s'asseoir et en discuter. Vous braillez que vous êtes exclu de tout, mais vous arrivez 15 minutes avant la fermeture des bureaux.
Savez-vous quoi, Mme Paulus? La différence entre vous et moi, c'est que vous, vous êtes tout le temps à l'hôtel de ville. Moi, je travaille. Puis avec mes heures de travail, là, mais j'ai difficilement le loisir d'aller, à l'hôtel de ville avant 16h30. J'ai des enfants aussi à aller chercher à la garderie. Puis mon employeur, là, il n'accepte pas bien ben non plus que je dois quitter mon emploi plus de bonne heure pour aller à l'hôtel de ville. C'est des réalités. Puis là, là, vous me mettez le fardeau que c'est moi qui ne vais pas chercher les nouvelles. Mais pourquoi vous ne m'envoyez pas, vous, des nouvelles, des résumés de vos rencontres, des résumés de ce qui se passe? Depuis 2017, vous n'envoyez jamais aucun résumé. Donc, arrêtez de dire que c'est la risée, la période de questions. C'est le seul moment que j'ai le loisir de parler à l'ensemble du conseil.
Mais ouais.
Même moi, aller m'asseoir seulement avec vous, là. Mais encore là, c'est même pas avec vous, c'est avec le DG. Je suis allé aujourd'hui, j'ai rencontré le DG. Je n'ai même pas daigné de vous lever puis venir me voir puis venir s'asseoir, venir vous asseoir à côté de moi.
Mais non, parce que je travaillais, M. Robillard. Le poste de maire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est un poste à temps plein, M. Robillard. Mais... OK. Quelle est votre prochaine question, M. Robillard?
Ah, c'est terminé pour ce soir. C'est
bon, alors nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée?
François Yersin le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Alors, merci. Bonsoir.